Simon,
Nathalie Mann
et Solès
explorent une thématique
au travers de la poésie et de la musique
tous les troisièmes lundis du mois de 20h à 21h
sur la clé des ondes 90.1. Déchirement du ciel sous la chaleur. Pour l'heure, pas de pluie, pas de drame. Ta voix, perdue dans les songes, rêvée en colère, elle s'avère être douce. D'où viens-tu si tard, si fantomatique? Anne-Cécile Cosse, dans l'aube après toi.
Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Sol. Et bonsoir à vous chers auditeurs. Bienvenue pour une dernière exploration de la nuit dans l'émission Ici Même. Elle se fera en toute confiance, en toute douceur et lucidité, entre vous, nous et notre deuxième interviewé, Brazil. Confiance. J'ai tourné à l'angle de la rue et tu m'as arrêté au feu. Je m'épuisais à te suivre. J'ai décoré le ciel d'une lumière rouge, de la couleur de ton pull d'hiver que tu laissais voler entre la portière et la route. J'imaginais l'asthénie sur un volant diabolique, prête à nous secouer entre les murs invincibles de la ville. Je n'ai rien dit quand la chouette s'est posée sur le capot et que son regard poignant m'annonçait la vie sauvage. Tu m'as retrouvée suspendue à la première branche de l'arbre.
C'est à vous, chère sœur, que j'écris pour la dernière fois. Je viens d'être condamné. D'aller rejoindre votre frère. Comme lui, innocente. J'espère montrer la même fermeté que lui. Le mal qu'ils m'ont fait. Dans quelle position je vous laisse? Mort. Je ne vais plus m'occuper que de mes devoirs spirituels. Puisse cette lettre vous arriver. Mon Dieu, ayez pitié de moi. Adieu. Adieu.
Donc on vient d'écouter le titre « Je vous veux », extrait du 45 tours « Marie-Antoinette is not dead », qui est sorti chez Retour Relief Records il y a quelques années, donc sur lequel on retrouve la chanteuse et actrice Marie France. Mm-hmm. Donc c'est, Marie France est une véritable icône de l'underground français. Et donc sur ce disque, elle est accompagnée par le trompettiste Jacques Barocal, mm. et le guitariste Jacques Belzen. Et donc sur ce disque, elle lit la dernière lettre de Marie-Antoinette,
que ah, Marie-Antoinette... Oui.
Que Marie-Antoinette a écrit à sa sœur, donc lors de sa dernière nuit avant sa mise à mort, en fait.
Oui, ça a été brodé dans un, ça a été brodé sur une toile, enfin une tapisserie, je sais pas, je l'ai lu quelque part. Je pense que c'était au musée décoratif de Paris.
Ah oui, oui.
Ouais. Nuit, mère de lumière, en son sein, lumière est déjà sang, déjà lait, déjà. Chair déchirée, déjà prête à mourir et toujours renaissante. Déjà, ultime sursaut, mais toujours, premier jet. François Cheung, dans À l'Orient de tout.
Competing with your moonlight anymore. Oh moon, oh moon, queen of night, ruler of the tide. May there be more silent moonlight, even starlight, like before. O moon, queen of night on earth, may there be more silent moonlight, even starlight, like before.
De jour comme de nuit. La nuit m'a oublié. Pourtant, je suis toujours là, entre les murs déchus d'une intraitable industrie.
Sleep, 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 go to sleep. Sleep, sleep, sleep. Go to sleep, 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 sleep. Go to sleep, sleep, go to
Mais taisez-vous, taisez-vous, vous m'empêchez de dormir, parlez plus bas. Si je dormais, je ferais peut-être l'amour, j'irais dans les bois, je verrais le ciel, la terre, je courrais, on poursuivrait, je m'enfuirais. Nature, il y a une goutte d'eau dans ma tête. Un cœur dans ma tête. Samuel Beckett, dans Fin de partie.
Moi, on m'appelle Brésil.
Brésil.
Ouais, c'est mon blaze. Je suis à la rue. Ça fait 20 ans. J'en ai 35. Une nuit ordinaire. C'est attendre 2-3 heures du matin qu'il n'y ait plus de voiture pour qu'il n'y ait pas de bruit et pour pouvoir dormir. Et enfin, fermer les yeux. Jusqu'à 5-6 heures du matin, jusqu'à que le premier bus y passe. Voilà.
Ouais, okay.
C'est comme ça.
Une de tes plus belles nuits, tu vas finir.
Ouais, mais non, mais après, je vais pas tirer sur le porno. Mais... bon, voilà, on se comprend, quoi.
Oui, oui. Et dans la rue,
ça arrive.
Ouais.
Ça arrive. Non, bah, parfois je tombe sur plein de gens et tout, qui sont super sympas, qui m'offrent à boire. Et puis voilà, mais après parfois ça se passe mal aussi. Parfois on peut tomber sur des cons, on dit juste parce que les gens ils sont pleins, ils sont plein morts, je dirais alcoolisés.
Oui.
Voilà, alcoolisés, ils gueulent. Et nous on leur demande juste de baisser un peu de ton. Et les gens commencent à se prendre à nous, et puis ouais, après ça part en couille, quoi. Voilà, ça part en couille. Et vu que moi je me laisse pas faire, les gens se laissent pas faire parce qu'ils sont pétés, voilà. Ça, on sait jamais ce qui peut arriver. Moi je suis né au Brésil, je me suis fait adopter en Belgique quand j'avais 5 ans. Et je suis arrivé en France, ça fait 7 ans. J'ai grandi en Belgique. Ma famille est en Belgique et tout. C'est pas pareil. En Belgique, tu ne trouves pas de gens à la rue. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'il y a des aides, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Tu ne trouves pas de gens à la rue. Sauf de vrais... Tu vois ce que je veux dire?
Est-ce que tu pourrais me dire quelles sont tes nuits préférées? Quelle saison est ta saison préférée pour vivre la nuit? C'est-à-dire...
L'automne.
Ah ouais?
Là, maintenant, ouais, c'est nickel.
Même avec la pluie?
Ouais. L'automne.
L'automne,
c'est pour travailler surtout. Ouais. Pour travailler, parce que moi je suis saisonnier en fait. Toujours maintenant, je fais les vendanges.
Tu te loges pendant les vendanges?
Non, je dois me débrouiller pour moi-même.
Ça t'arrive parfois quand même de dormir dans un lit, ça?
De temps en temps, ça m'arrive.
T'apprécies quand même?
Ça me fait mal le dos.
Ah bon?
Ouais.
C'est vrai?
Je préfère dormir sur le sol.
Dani, pour toi, c'est le moment idéal pour quoi en général?
Pour rencontrer des gens. Déjà de 1. De 2, pour voir comment les gens échangent.
C'est-à-dire?
Parce que une fois la nuit, les gens commencent à boire et tout. Les gens échangent.
De mentalité?
Ils changent de mentalité, ouais, c'est ça. Et c'est là que tu vois comment les gens sont réellement. Parce que tout le monde a une double, triple personnalité. Voilà. Et c'est là que tu vois comment les gens sont réellement.
C'est beau de le voir ou des fois c'est désolant, c'est triste, c'est...
Il y a de tout. Il y a de tout pour faire un monde.
Quelle serait ta plus belle nuit que tu pourrais imaginer ici à Bordeaux? Pour toi, la nuit idéale. Hein.
À Bordeaux? Sérieux?
Ouais.
Ah ben, j'irai au lac de Bègle avec toi. On se fait un petit barbecue, tranquillou. Et j'ai ma tante et tout. Et après, on verra.
Ok. Tu arrives, des fois, tu dors aussi en campagne la nuit? Enfin, ça t'arrive de...
Ouais, je préfère la campagne que la ville. Parce que j'ai grandi en campagne déjà, de base.
Donc en Belgique, t'as grandi en campagne?
J'ai grandi dans la campagne. J'étais fermier avant.
Ah
ouais, ouais. J'avais même pas de don, j'étais fermier. Ouais, ouais. Je travaillais dans la ferme, quoi. Toute l'année, je fais du travail agricole. Donc voilà, j'aime bien la nature. J'aime bien entendre le vent. C'est bizarre hein, de dire ça, entendre le vent. Tu vois, bah, moi, j'entends, je l'écoute, le vent. Et j'adore ça.
Et à Bordeaux, tu peux l'écouter le vent de temps en temps?
Non. Avec ça? En ville, tu vois ça? C'est du béton. C'est du béton. Tandis que quand t'es en la campagne, ça c'est la campagne, tu vois.
Qu'est-ce qui manquerait à Bordeaux pour passer vraiment une nuit parfaite hein, si on vivait tous dans la rue? Qu'est-ce qu'il faudrait?
C'est trop tard. C'est trop tard. Tout est fait. C'est trop tard.
Que toi t'es différent la nuit? Tu parles des gens qui sont un peu, qui ont plusieurs, plusieurs personnalités, etc. Plusieurs, tu sais, manières de vivre.
Mentalité.
Ouais, mentalité, ouais.
Non, moi je reste toujours moi-même. C'est une de mes forces. C'est pour ça, les gens, ou ils m'aiment, ou ils m'aiment pas. C'est tout, je suis comme ça. Et je resterai toujours le même.
Quelles ont été les premières difficultés à dormir la nuit dans la rue?
Au départ, j'étais tout seul. Quand j'étais déjà dans la rue quand j'étais en Belgique. Mais quand je suis arrivé en France, en fait, je suis tombé sur une équipe, enfin, un groupe de gens qui se connaissaient. Qui venaient pas du même endroit, mais qui se connaissaient tous. Et c'est grâce à eux que j'ai appris à vivre en communauté, on va dire. C'est grâce à eux que j'ai appris à vivre dans la rue. Parce qu'avant, moi, je me cachais, en fait. Je me cachais, vraiment. Mais eux, ils m'ont appris à vivre normalement, dans la rue, à pas avoir honte. Voilà, parce que j'ai pas honte. C'est comme ça, c'est la vie. En fait, moi, je suis un enfant, moi, c'est pas la DAS. Moi, je suis un enfant adopté. J'ai grandi dans la rue. Je suis né d'une mère prostituée qui avait 14 ans, qui m'a mis à la rue parce que elle pouvait pas s'occuper de moi, tu vois. Du coup, bah, je suis arrivé, j'ai fait de maison en maison au Brésil. Je m'en rappelle pas, heureusement. Et c'est de là que viennent toutes mes cicatrices. Parce que je pleurais. Et les gens, pour me calmer, ils écrivaient leurs cigarettes sur ma gueule. J'ai atterri dans un orphelinat. Ben, j'ai grandi comme ça. Et un jour, je vois des... C'est pas de racisme, mais je vois des parents blancs qui viennent près de moi. Qui commencent à jouer avec moi. Ensuite, ben, on a pris l'avion, on arrive en Belgique. 8000 km. Ils ont traversé l'Atlantique pour venir me chercher. Donc pour moi, c'est pas la DAS. C'est autre chose que la DAS. Pour moi, c'est pour ça que je l'appelle papa et maman. Et c'est eux qui m'ont fait grandir. C'est pour ça que j'ai une mentalité européenne. Alors que je suis amérindien. Ma mère est diabétique. Le diabétique héréditaire. Donc du coup, elle pouvait pas avoir d'enfants. Donc du coup, mes parents ont adopté 5 enfants. Moi, je suis brésilien. Moi, je suis arrivé en deuxième. Le premier qui est arrivé, c'est mon frère qui est burundais. Il s'appelle Sébastien. Lui, il vient de Burundi. Après, c'est ma petite sœur, Amandine. Elle vient d'Éthiopie. Après, c'est mes deux grandes sœurs qui sont arrivées du Brésil, mais pas de la même ville que moi. Moi, je suis arrivé de Porto Alegre. Elle vient de Sao Paulo. C'est à 3000 km de différence sur le Brésil. Et on a appris à vivre ensemble, en communauté. J'avais 10 ans. C'est moi qui faisais à manger pour tout le monde. Ah ouais. Et même encore maintenant, hein, quand je fais à manger, c'est, je, Quand je fais à manger, c'est pas pour moi, c'est pour tout le monde. Et j'ai vécu au Maroc, j'ai vécu partout, j'ai vécu en Russie, j'ai vécu. Si, j'ai vécu au Sénégal, j'ai vécu en Mauritanie, la Croatie, la Tchéquie, j'étais partout. Hein.
Fire Dream, donc d'Adrian Orange. Donc Adrian Orange, c'est un artiste d'anti-folk américain qu'on retrouve souvent sur le label un peu légendaire, Kay Records. C'est le label de Calvin Johnson, qui est entre autres le leader du groupe Beat Happening. Et donc il y a des années, Adrian Orange, il est allé en Éthiopie en fait. Et il a découvert tous les tio jazz en fait, et on est tombé complètement amoureux, comme nombre d'entre nous en fait, donc avec toutes les compiles éthiopiques qui sont sorties ensuite et tout. Et donc quand il est rentré chez lui, il a vraiment eu envie de faire un disque dans cet esprit là et donc il a réuni tous les musiciens de jazz qu'il connaissait dans sa ville, donc à Portland, et il les a réunis. Il a enregistré ce disque dans le salon de sa mère. Voilà. Et donc ce disque s'appelle Adrian Orange and Her Band, pas His Band mais Her Band. Voilà, et donc c'est un beau disque qui est sorti chez Kay Records, justement, il y a quelques années.
Je joue avec l'interrupteur en même temps qu'avec le bleu du ciel. Encore un peu clair, il dit. Collés l'une à l'autre, la couleur de l'été et l'odeur de la terre sèche. Déjà un peu sombre, ils préparent aux constellations leur scène pour la nuit. Si on regarde le ciel scintiller, est-ce qu'on voit les étoiles naître ? Au pied du lit, j'assois mon corps comme on lâche un sac en cuir souple et vide sur une chaise. Mon ventre est un trou, mais je ne peux rien avaler qui le remplirait. Laurence Villaine dans la Grande Villa. Curieuse sensation qu'un premier contact avec la pauvreté. C'est une chose à laquelle vous avez tellement pensé, que vous avez si souvent redouté, une calamité dont vous avez toujours su qu'elle s'abattrait sur vous à un moment ou un autre, et quand vient ce moment, tout prend un tour si totalement et prosaïquement différent. Vous vous imaginiez que ce serait très simple, c'est en fait extraordinairement compliqué. Vous vous imaginiez que ce serait terrible, ce n'est que sordide et fastidieux. C'est la petitesse inhérente à la pauvreté que vous commencez par découvrir. Les expédients auxquels elle vous réduit, les mesquineries alambiquées, les économies de bout de chandelle. C'est tout d'abord l'atmosphère de secret cachotier. Vous vous trouvez brutalement contraint de vivre avec 6 francs par jour, mais vous ne voudriez pour rien au monde que cela se sache. Il faut donner à votre entourage l'impression que rien n'a changé dans votre vie. Ce qui vous enferme d'emblée dans un labyrinthe de stratagèmes dérisoires qui ne suffisent même pas à donner le change. C'est une grande erreur de croire que les chômeurs ne pensent qu'à l'argent qui ne rentre pas. Au contraire, un esprit frustre, de tout temps habitué à travailler, a encore plus besoin de travail que d'argent. Avec un peu d'instruction, on peut s'accommoder de l'oisiveté forcée, qui est l'une des pires misères liées à la pauvreté. Celui qui est le plus à plaindre, c'est l'homme qui s'est trouvé tout en bas dès le départ et qui doit affronter la pauvreté avec un esprit vide et désarmé. Jamais plus je ne considérerai tous les clochards comme des vauriens et des poivrons. Jamais plus je ne m'attendrai à ce qu'un mendiant me témoigne sa gratitude lorsque je lui aurai glissé une pièce. Jamais plus je ne m'étonnerai que les chômeurs manquent d'énergie. Jamais plus je ne verserai la moindre obole à l'armée du salut, ni ne mettrai mes amis en gage, ni ne refuserai un prospectus qu'on me tend, ni ne m'attablerai en salivant par avance dans un grand restaurant. Ceci, pour commencer. George Orwell, dans la Dèche, à Paris et à Londres.
Thank you.
C'était le compositeur japonais Isao Tomita et ses arrangements de synthétiseurs pour Clair de Lune de Debussy.
Lectrice, lecteur, il serait indiscret de te demander qui tu es, ton âge, ton état civil, ta profession, tes revenus. C'est ton affaire, à toi de voir. Ce qui compte, c'est ton état d'esprit à présent que, dans l'intimité, chez toi, tu essaies de retrouver le calme pour te plonger à nouveau dans le livre, allongeant les jambes, les repliant, les allongeant. Mais quelque chose a changé depuis hier. Ta lecture n'est plus solitaire. Tu penses à la lectrice ou au lecteur qui, en ce moment même, ouvre le livre. Et voici qu'un roman à lire se superpose un roman à vivre. La suite de ton histoire avec elle ou lui, ou plus exactement, le début d'une possible histoire. Regarde comme tu as déjà changé. Tu soutenais que tu préférais un livre, chose solide, qui est là, bien définie, dont on peut jouir sans risque à toutes les expériences vécues, toujours fuyantes, discontinues, controversées. Cela veut-il dire que le livre est devenu un instrument, un moyen de communication, un lieu de rencontre? Ce n'est pas pour cela que la lecture aura moins d'emprise sur toi. Au contraire, quelque chose de nouveau s'ajoute à ses pouvoirs. Ce volume-ci n'est pas coupé, premier obstacle sur lequel bute ton impatience. Muni d'un bon coupe-papier, tu t'apprêtes à pénétrer ses secrets. D'un large coup de sabre, tu te ferais un chemin entre la page de titre et le début du premier chapitre. Et c'est là que... dès la première page, tu t'aperçois que le roman que tu tiens en main n'a rien à voir avec celui que tu lisais hier. Italo Calvino dans « Si par une nuit d'été » Non. Italo Calvino dans « Si par une nuit d'hiver » Un voyageur.
Tonight, the sounds from the main road are the only sound. They're like waves or transports to heaven. But there's another, flashing in a way like a purple cotton dress caught in the nail of a fence post, flapping in the awkward, busy breeze. Two girls are making out in the stairwell, turning on a woman's younger brother. But the sounds from the main road tonight are the only sound. And so Romeo writes another. Woman. The envelope licked Messiah. The no return address trapdoor sister. Woman, the electric guitar leaning against the window of the world's last good idea. Woman stretched out on a bed like a wedding dress. While lying sleep under phrases and books that I thought were important at the time, but more like a friend that I will come back to once I reach the end. Girl, the dandelion, the yellow flower that's lumped in with the weeds and innocence is mowed down every suburban Sunday. Girl, the dragonfly dancer supreme. Girl, the scraped knee Christmas tree still planted in the snowy haunted woods. Girl, skinny in a miniskirt, a Millie does flirt in the palace of Joan of Arc as light hits metal reflecting against the gypsy's ruby pearl between her undeveloped breasts, against her fill-in-the-blank heart. Girl, the X showing us where to start. I read somewhere that Hank Williams died in the back of a chauffeur-driven Cadillac en route to a show. Look what a scourge is laid upon her. I hate that heaven finds a means to kill her joys with love, wrote Shakespeare of Juliet and of Romeo. I was just a boy on the road to ode to joy. I've been a jealous man, a family man, a Renaissance man, a blues man, a ladies man. Sundown in a small village called East Van. But I turned to the sky for consolation, just when I thought all other sacred scripture had all but gone and left. But this is the gospel according to a purple cotton dress. And as I lift up its ripped hem and my cheek is against her inner thigh, there's a rainbow in my burnt sugar breath.
Moisson. Un moustique grandit les contours de la nuit. Il emporte une goutte de mon sang. Je suis le moustique, réduit par les contours de la nuit. J'emporte une goutte du sang de la nuit. Je suis la nuit qui flotte sans contour. J'emporte une goutte de sang du paradis. Ce poème est de Peitao. Alors Peitao, c'est mon poète préféré. De son vrai nom, c'est Chao Chen Kai. Il est devenu mon poète préféré, en fait, seul quand j'ai découvert son recueil dans une librairie à Pékin, la librairie de Bookworm.
Ah oui, d'accord.
Ouais, c'était en 2012, je travaillais, je vivais à Pékin. Mmh. Donc l'ouvrage en question s'appelait, donc je l'ai ici, hein, The Rose of Time. Donc il est en version bilingue, mandarin et anglais. Dans ce bouquin, il dit quelque chose de très beau. Il dit que la liberté n'est rien d'autre que la distance entre le chasseur et le chassé. Il l'associe donc à l'acte d'écrire de la poésie. Quand tu poursuis la poésie, tu es en réalité poursuivi par elle. Tu es alors prédateur et proie. Mais la poésie est cette distance comme l'est la liberté.
D'accord.
Donc là, récemment, en fait, il a sorti un livre qui s'appelle City Gates Open Up, Porte de la ville, ouvrez-vous. Mmh. Et je découvre qu'en fait, il habitait dans la même rue que moi à Pékin, qui s'appelle San Pulau Hutong, c'est-à-dire trois jamais vieux, Hutong. Il habitait au numéro 1 et moi j'habitais au numéro 38. Ouais, j'ai regardé ça. Ouais, je regardais ça dans mon journal intime de l'époque. C'est intéressant parce que, en fait, quand je suis arrivée à Pékin, moi je ne savais pas du tout vivre et j'avais rencontré un homme qui s'appelait James. Donc, par la radio, je vais le remercier parce que j'avais pu le remercier, qui m'avait aidé à chercher une petite maison dans les vieux quartiers. Qui était entouré de murs, bon, c'est comme ça. Mais il me disait, cette rue est très importante. Il y a le navigateur Cheng He qui a vécu ici. Et vraiment, c'est une rue d'exploit, de poésie, voilà. Et il me disait, il faut que toi tu vives ici. J'ai vécu là. Et non, mais ce qui est très beau dans son bouquin de City Gates Open Up, c'est qu'il raconte justement tout ça, ce que je n'ai pas pu du tout vivre, parce que je n'étais pas encore née, mais de ce Pékin qui, depuis les années 50, depuis les années 49 exactement, jusqu'à qu'il parte en 89. Exilé à cause des événements de Tiananmen. Il raconte beaucoup donc ce quartier où j'habitais, près du lac Rouhai, et la révolution culturelle, c'est-à-dire tous ces déboires, etc. Mais aussi ses débuts dans l'écriture. Et vraiment, c'est un poète que je conseille à tout le monde et qui est encore vivant. Donc, il faut en profiter.
Ouais. Et il faut acheter ses livres aussi, vu qu'il est vivant.
Absolument, voilà, il faut acheter ses livres. Alors, en français, il n'y a pas trop de traductions, quelques-unes, mais c'est vrai que c'est plutôt en mandarin et en anglais, tu vois. Mais voilà, donc, une très belle découverte.
Mais donc, il faut qu'un éditeur français l'édite en France.
Mais en tout cas, pour City Gates Open Up, oui, après, je pense que ça va sûrement être fait, mais ça vient juste de sortir en anglais.
Ouais. Ok. Et moi, je voulais te parler d'un truc aussi, Nathalie.
Vas-y, dis-moi.
Est-ce que tu connais... Est-ce que ça te dit quelque chose, le black gaze?
Alors là, pas du tout.
Non, pas du tout. Et le post-black metal... En fait, c'est assez marrant parce que moi je m'y connais pas vraiment. J'écoute un peu de musique extrême comme ça. J'aime ça. mais je m'y connais très mal, finalement, en black metal. Je commence à découvrir quelques trucs. Mais en fait, on se rend compte que souvent... Enfin, il y a donc pendant longtemps, les fans de black metal étaient très attachés à une sorte de folklore, et puis il y avait une sorte de psychorigidité sur comment est-ce qu'on doit faire du black metal ou non. Enfin, c'est ce que je comprends en allant voir des trucs et en écoutant et en voyant des choses qui parlent du sujet. Et en fait, c'est assez drôle parce que depuis quelques années, en fait, en revanche, il y a des groupes qu'on sent sont très attachés à l'aspect sonique de cette musique, d'accord, mais qui essayent de l'emmener ailleurs. Avant, c'est voilà, c'était aussi rattaché à une sorte de folklore un peu sataniste et tout mm-hmm. ça. Et donc depuis quelques années, il y a ces groupes qui s'en libèrent un peu et qui font des croisements vachement intéressants. Et donc notamment, il y a un groupe donc, qu'on va écouter qui s'appelle Bosse de Nage. Mm-hmm. Donc vous me dites, mais quel drôle de nom pour un groupe. Donc en fait, c'est un groupe américain. Donc, et donc Bosse de Nage, en fait, c'est un personnage d'Alfred de Jarry.
D'accord. Voilà.
Et donc Bosse de Nage, depuis deux albums, là, font une musique vraiment à la croisée de plein de choses qui a ce côté sonique très black metal, mais qui part dans du post-rock, enfin, et même un côté un peu mat-rock et tout. C'est vraiment super. Il y a super belles ambiances aussi. Et on va écouter un morceau donc, de leur deuxième album qui est un peu plus classique, mais où on sent, mine de rien, donc, cet aspect dont je parlais tout à l'heure, black. Gaze, mm-hmm. et donc et le mélange du black metal avec le shoegaze. Alors le shoegaze, est-ce que ça te dit quelque chose?
Non, pas du tout. Dis-moi.
Donc le shoegaze, en fait, c'est un genre qui est apparu dans les années 90. Donc de musique très ambiante, comme c'est un peu comme le post-rock, mais plus linéaire. Mm-hmm. Et où en fait, les musiciens et guitaristes jouaient beaucoup avec leurs pédales d'effet, en fait, donc à leurs pieds.
D'accord.
Et donc, ils étaient tellement concentrés sur leurs pédales qu'on a l'impression qu'ils sont fixés sur leurs pieds, d'où le shoegaze.
Ah,
en fait,
d'accord.
Voilà. Et donc, voilà. Et donc là, donc Bosse de Nage mélange un peu le black metal avec le shoegaze, donc on appelle ça le black gaze. Et donc, on va écouter ce morceau qui s'appelle The Limpless Hours.
cœur et horloge. Et le ciel se prend à tourner sur son axe, le soleil. Chaque feuille pivote sur sa tige. Et la malédiction des montres et des horloges subtilise la journée. 10 000 milliers de pas piétinent l'aube. 10 000 roues sillonnent le jour de long en large, creusant leurs ornières au sein de sa clarté. Les horloges s'égouttent dans chaque pièce. Nos vies s'écoulent de partout et la clarté du jour se dissout en étoiles. Si mes jours étaient comme les fourmis, je pourrais déplacer cette montagne. Il me faut donc vous chérir, seconde, que d'autres vous brisent et vous broient à l'envi. Moi, je me sauverai avec quelques bribes. Chacun son chemin, de Charles Reznikov.
Je crois que c'est bientôt la fin, Nathalie.
Eh oui, c'est bientôt la fin. Il est 9h05, chers auditeurs.
Et donc, on va se quitter avec un morceau d'Angel Olsen qui s'appelle Sweet Dreams.
Et avant de se quitter seul, il faudra donc, chers auditeurs, cette émission sera rediffusée ce samedi 21 octobre de 23h à minuit dans le cadre des Nuits Créatives. Et elle sera aussi disponible sur SoundCloud/ici-du-6-même dès demain. Et donc, seul, on attend ton morceau.
Ben oui, Angel Olsen, Sweet Dreams. Bonsoir, au mois prochain.
Tête-à-tête avec l'émission Nuit Fragmentée et nous nous reverrons le lundi 21 novembre pour une émission sur la thématique de l'errance. Donc bonsoir Sol.
Bonsoir Nathalie.
Au revoir chers auditeurs.